on a darker bay, wasting time.
Ah, ça fait du bien d'entendre cette chanson-là. Otis Redding pour nous parler de Steve Cropper, Daniel. C'est quoi le lien?
Steve Cropper, le lien, bon, je vais commencer par vous parler de cette chanson-là en particulier avant de parler de la carrière de Steve Cropper, parce que Steve Cropper a participé à la création de cette chanson-là. C'est une chanson qui avait été coécrite par Otis Redding et Steve Cropper. Et juste pour vous mettre dans l'ambiance, Otis Redding était très populaire déjà à l'époque. Il faisait de la tournée beaucoup. Il était souvent dans son avion privé pour faire de la tournée. Il était souvent, il restait dans des hôtels. À un moment donné, il était tanné dans les hôtels.
Oui, j'imagine, la tournée
s'épuise. Puis un de ses amis qui lui avait suggéré de rester une couple de jours sur son bateau qui était accosté dans la baie de San Francisco.
Ah, un beau projet.
Puis il se levait le matin, il voyait les bateaux arriver puis repartir.
Ça
puis
lui
les goélands.
Cette chanson.
Et voilà, c'est vraiment... Et ce qu'il raconte, Sitting on the Dock of the Bay, il raconte seulement ce qu'il voit le matin quand il se lève.
La vie, source
tout simplement,
d'inspiration.
Et ça a fait un succès.
Un gros, gros succès.
Il avait commencé à écrire cette chanson-là. Steve Cropper, à l'époque, travaillait chez Stax Records comme musicien. Pardon, je la vois un peu... Et les deux ont complété la chanson ensemble. Et malheureusement, les deux enregistrements, parce qu'ils ont commencé à enregistrer le 22 novembre 1967, ils ont complété l'enregistrement le 7 décembre et ont rajouté des choses, des overdubs qu'on dit en anglais.
C'est quoi ça, des overdubs?
Quand on ajoute, l'enregistrement est déjà fait et on va ajouter des instruments ou des voix par-dessus. On va superposer des enregistrements. Et malheureusement, le 10 décembre... Otis Redding a eu un accident d'avion. Son avion s'est écrasé. C'était son bimoteur privé qui prenait pour partir en tournée. Il s'est écrasé sur le lac gelé de Monona au Wisconsin.
Il n'y a pas eu de chance.
Il s'en est pas sorti. Donc, Steve Cropper a continué. Il a fait le mixage de la chanson après le décès. Et c'est lui qui a ajouté les sons de goéland puis de vagues, la mer qu'on entend, tout ça. Il y a une chose qu'on n'est pas certain selon les différentes sources. Le sifflet qu'on entend à la fin...
appartient à qui?
Appartient supposément à Otis Redding. Certaines personnes disent qu'il y en a un autre qui l'a rajouté par la suite. Ou peut-être qu'on entend les deux, puis c'est imperceptible. Des fois, l'enregistrement, c'est juste correct, on n'entend pas assez. Fait qu'il y en a peut-être un deuxième qui a sifflé par-dessus. Mm-hmm. Ça, c'est pas clair. Mais ce qui est clair, c'est que cette chanson-là est devenue quand même le premier numéro un à titre posthume aux États-Unis. C'est quand même... En soi, c'est un exploit.
Ouais.
Il venait de finir de l'enregistrer. Lui-même, il n'a jamais entendu la version finale. Ça, c'est triste, là. Et c'est surtout devenu un très grand succès. Il n'en a jamais conscient.
Il y a beaucoup d'artistes comme ça qui meurent et qui ne sont pas au courant qu'ils sont extrêmement populaires.
Effectivement, ça arrive souvent après. La chanson, elle avait été lancée le 8 janvier 1968 par la compagnie Stax Records et donc est devenue numéro un. Et en 1969, elle a gagné deux Grammy Awards, une pour la chanson « Meilleure chanson R&B » et « Meilleure performance vocale ».
Ah oui!
Donc ça, c'était un honneur pour Otis Redding.
C'est triste quand même, il n'a pas pu aller chercher ses prix.
Non, je ne sais pas, c'est peut-être Steve Cropper qui est monté sur la scène.
Ah,
ça
se peut.
J'ai pas vu ce gala, mais je doute fort que ça doit s'être passé comme ça. Et vous savez que cette chanson-là... Il y a beaucoup de monde qui la connaissent parce qu'il y a eu d'autres versions. Chez nous, ici, Michel Pagliaro, on avait fait une version en 1977.
Ça
vaut la peine d'écouter ça parce qu'il y a une voix plus rauque. Ça donne une autre, vraiment, une autre couleur. Et Michael Bolton, par la suite, en avait fait une aussi.
Avec sa voix rauque.
Oui, avec sa voix aussi. Donc, c'est trois versions quand même assez différentes. Et l'original dure seulement 2 minutes 41. Mm-hmm. Mais ce que j'avais compris de Michael Bolton et Michel Pagliaro, c'est qu'ils l'ont allongé un peu.
Une version extended.
Ben, mettons qu'après le sifflet, à la fin, ils reviennent avec un couplet puis un autre. Donc, ils n'ajoutent pas grand-chose. Ils font juste du copier-coller.
Je serais curieuse de savoir c'est quoi le titre en français.
Je crois pas. Pagliaro, il l'a fait en anglais.
Il l'a fait en anglais,
Oui, c'était dans The Dark of the
Bay. Je pensais que c'était une version
française. C'était sur son album Time Race. Ça donne le ton, ça devait être tout en anglais. Donc, Monsieur Steve Cropper, qui avait écrit ce, co-écrit ce hit, il est né, Stephen Lee Cropper, né le 21 octobre 1941 à Dora, dans le Missouri. C'était connu comme un guitariste, auteur, compositeur, producteur, donc il était vraiment dans le milieu de la musique à plein temps, là. Il est décédé récemment, le 3 décembre 2025, à Nashville, dans le Tennessee, à l'âge de 84 ans. C'est pas très clair quand sa mort a été annoncée, il n'y avait pas trop de détails, mais apparemment, il aurait fait une chute et il a eu de la difficulté à s'en remettre et probablement qu'il est décédé des suites de cette chute-là. Quand il était jeune, il était un grand amateur, admirateur de Chuck Berry, Bo Diddley, Ray Charles, The Platters et tout ça. Et c'est un petit peu normal quand je regarde ça, je fais le calcul. Il est né en 41, donc milieu des années 50, il y a 14-15 ans. À cet âge-là, on s'intéresse beaucoup à la nouvelle musique. Et c'est là, c'est le rock'n'roll qui commençait à cette époque-là, Elvis, tout ça. Fait que c'est ça qui lui a donné le goût d'acheter une guitare et je le comprends très bien. C'est vraiment une époque où les guitaristes, c'est là qu'ils sont nés.
Vous vous identifiez à Steve?
Un peu, je suis plus jeune que lui, mais...
Qui jouait de la guitare.
J'ai connu les Steve Cropper, puis moi, c'est à eux qui m'ont influencé à apprendre la guitare. Donc, à 15 ans, ça, je m'identifie un peu, par exemple. À 15 ans, il a pris lui-même l'initiative de s'acheter une guitare pour la grosse somme de 18 $. Ben c'est US, par exemple.
Il avait ramassé son argent, 18 $ américains. C'était certainement de l'argent à cette époque-là.
Et il a commencé à prendre quelques leçons, mais rapidement, il a décidé qu'il en savait assez, puis il a décidé de se développer par lui-même.
Comme beaucoup
de guitaristes de cette époque-là, parce que le rock and roll, le blues qui est joué à l'époque, c'était de la musique très, très simple aussi. Une fois que tu connaissais 3-4 accords, tu étais capable de te débrouiller. Fait que c'est fini les leçons, je suis capable de jouer ça, je commence à jouer, ça finit là. Et ça a été très bénéfique pour lui parce que probablement qu'il, le fait d'avoir des rencontres aussi, là, qui souvent donne une bonne chance. À l'âge de 16 ans, il a déjà commencé à participer à un groupe qui s'appelait The Marquees, M-A-R, trait d'union K-E-I-S pour clé. Et ils ont enregistré un premier 45 tours qui s'appelait Last Night en juin 1961. Et c'est devenu un succès, classé numéro 2 au classement R&B en 1961. Donc, on va en écouter un petit extrait très cool, là, mais ça donne le ton.
On est vraiment dans le son des années 60.
Ah oui, ça donne vraiment le ton. Ça fait penser un peu à Soul Bossa Nova de Quincy Jones.
Ça fait penser
un peu aussi à Tequila. Il la tourne en dure 3 minutes, puis à un moment donné, il s'arrête puis il dit juste un mot.
Ça fait penser, au film de Peter Sellers.
Oui, mais exactement.
J'ai pensé aux Monkees quand ça a commencé.
Les Monkees, c'est arrivé quelques années après. Fait que c'était vraiment le son qui était à la mode début des années 60. C'était très, très, très simple. Une chose intéressante, c'est que c'est le premier enregistrement qu'il a fait avec les Monkees. Et il ne jouait pas de guitare
là-dessus.
Et non, les Monkees. Marquees. Et il ne jouait pas de guitare là-dessus. Il jouait juste une note sur le clavier. Il y avait deux claviers.
On l'entend, le clavier.
Donc, ça commençait quand même assez bien pour un jeune comme ça, expérience de studio. Il a vraiment pris goût à ça. Et en plus, un des membres des Marquees, c'était nul autre que Donald Dunn, qu'on appelait Donald Duck Dunn, parce qu'apparemment,
il était
un petit peu rigolo aussi par la rime. Peut-être aussi parce qu'il avait les pieds palmés, on ne sait pas.
L'histoire ne le dit pas.
L'histoire ne dit pas tout. Ils se connaissaient depuis le primaire, depuis la sixième année. C'était deux chums, c'était comme deux frères. Ils étaient tout le temps ensemble. Donc, le jouer ensemble aussi en studio, ça devait leur donner beaucoup de confiance. Donc, en 1962, juste un an après, ils ont commencé à faire des enregistrements. Ils étaient engagés par la compagnie Stax pour enregistrer pour d'autres artistes. Et une bonne journée, un chanteur qui était absent, donc les gars ont décidé de travailler sur autre chose, enregistrer des trucs. Et là, il y avait le claviériste qui était Booker T. Jones. Ils ont enregistré 2 pièces instrumentales. Il y en a une parmi celles-là qui est devenue très connue. Ça s'appelle Green Onions. C'est classé au premier rang du palmarès R&B cette fois-ci. C'est au palmarès rock'n'roll. Il est numéro 3 palmarès pop. Et le groupe Booker T et the MGs venait de naître. Parce que là, on dit, OK, là, on tient quelque chose. On n'est pas juste des musiciens de studio qui enregistrent pour les autres.
Grâce aux oignons verts.
Grâce aux oignons verts, on va commencer à faire notre propre carrière. Et en passant, le Green Onions, je voulais garder pour la fin. Parce que vraiment, c'est la pièce, probablement la plus simple aussi, mais c'est la pièce probablement la plus connue de Booker T and the MGs, à laquelle Steve Cropper a participé aussi, à la création et à l'enregistrement. Et ça a été repris plus tard par d'autres et par nul autre que les Blues Brothers. Et
ah oui!
Steve Cropper fait partie des Blues Brothers et il jouait cette chanson-là en spectacle. Donc, je trouvais qu'elle était marquante. On la garde.
C'est vrai que c'est un verre d'oreille aussi.
Oui, oui. Fait que ça va être des oignons pour le dessert.
Okay. Des oignons caramélisés. Non, ils sont green. Ils sont green,
eux autres. Bon, ils sont forts. Ils doivent faire couler les yeux. Donc, ils sont devenus le groupe maison de Stax. La compagnie Stax a décidé tous les artistes qui vont venir enregistrer ici, ça va être vous qui travaillez pour les... Un peu comme Motown avait fait aussi. Il y avait leur groupe, c'était les mêmes musiciens qui enregistraient, tous les groupes qui enregistraient là. Donc, ils ont travaillé avec Otis Redding, bien entendu, Sam and Dave, Wilson Pickett, Rufus and Carla Thomas, Albert King, et etc. Isaac Hayes aussi. Donc, ils ont travaillé avec du monde assez important. Et d'ailleurs, on va écouter... Il y a surtout, je dirais, avec Sam and Dave, qui a plusieurs chansons, des petits extraits qu'on a connus. On va écouter un extrait.
Ça se termine avec Marston, Sally. Est-ce que vous dansez dans votre garde-robe, Isabelle?
C'est plus... Je danse avec ma tête.
Vous dodelinez parce que ces airs-là sont irrésistibles.
Oui, c'est toutes des choses vraiment. Qui sont très connues. Il y en a plusieurs qui ont été reprises par d'autres. On a entendu Sweet Soul Music. Ensuite, on a entendu Soul Man qui a été reprise plusieurs fois et surtout par les Blues Brothers qui le font encore aujourd'hui. Oui. Hold On, I'm Coming. I Thank You, ça avait été repris par ZZ Top. La chanson 634-5789 Soulsville, USA, ça c'était tout simplement le numéro de téléphone du studio. Land of Thousand Dances, le na-na-na-na-na, il y a plein de monde qui a joué ça aussi. Oui, là, c'était la version Sam and Dave, Wilson Pickett l'a fait aussi. Il travaillait pour la même compagnie, Stax Records.
Quand j'entends ça, je suis en train de danser à Cabane à Sucre.
Ben, c'est justement le genre de chanson...
Avec le jukebox.
Ouais, c'est justement le genre de chanson que les producteurs disaient, lui, il l'a fait, mais c'est pas grave, fais-la toi aussi, on va la diffuser ailleurs, ça va marcher. C'est sûr. Oui. Et ça a marché. Et bien entendu, ah ouais. Mustang Sally, tout le monde connaît ça, tout le monde joue ça encore aujourd'hui. Et même que, à un moment donné, à la fin des années 90, j'avais parti un trio de blues avec deux autres musiciens, puis on s'était entendu sur une chose, on va faire des choses qu'on aime faire, et on va avoir des choses, des restrictions au départ, et des trucs qu'on ne touchera pas parce que c'est trop brûlé, on est tanné. On a dit, Mustang, ça allait, fini, on ne jouera jamais ça.
Non!
On doit l'avoir joué mille fois. Il y a tout le temps une place que quelqu'un qui dit « Mustang, ça allait! »
Mais c'est bon. Fait que, oui, mais c'est sûr que quand ça fait un million de fois que tu as joué...
Là, je te parle d'un band qu'on a parti à la fin des années 90. Cette chanson-là date du début des années 60. On l'avait fait en masse.
Est-ce que vous la jouez encore? Parce que vous faites partie de band encore?
Ça m'arrive, oui, ça m'arrive. Il y a tout le temps quelqu'un qui crie ça, puis que là, le monde dit « Ah oui, ah oui! » Ah, okay.
Mais on ne peut pas résister.
Effectivement. Oui. Et d'ailleurs, les musiciens sont là pour amuser, pour divertir.
Alors toute
on
cette
dit
musique-là
oui.
est en lien avec Steve Cropper.
C'est toujours
qui
Steve
nous a quitté
Cropper,
le 3 décembre 2025.
Ouais, le musicien, le guitariste en studio. Et je vous ai parlé que bon, le groupe Booker T and the MGs est devenu le groupe maison de la place. Et ils ont eu une carrière à eux aussi, surtout de l'instrumental, par exemple. Mais surtout, à la, je dirais, je pense qu'en 73, ils ont sorti un album qui s'appelait Melting Pot. Et il y a des choses là-dessus quand même qui ont été un peu connues. Mais moi, je me souviens, dépendamment de ce qu'on écoutait, quel poste de radio on écoutait, ça sonnait un peu plus jazzé, un peu.
Ouais?
Je pense qu'ils cherchaient un style entre pop, jazz, fusion, abordable, populaire.
Explorer.
Ouais, ouais, explorer. On va écouter quelques extraits un peu plus courts.
Instrumentaux pour notre émission. Merci, Daniel.
Ben, je vous donnerai les références.
Oui, avec grand plaisir. Il y en a que je reconnaissais.
Oui.
Là, vous pouvez nous les présenter,
oui,
les pièces?
Oui, parce que ces pièces-là, c'était Sunny Monday, Kinda Easy Like, Melting Pot et Chicken Pox. C'était toutes des chansons tirées de leur album Melting Pot de Booker T and the MGs. Et suite à ça, Steve Cropper a ouvert son propre studio d'enregistrement parce que là, il était rendu assez expérimenté, il voulait voler de ses propres ailes. Et ça, je l'ai appris juste récemment. Je savais qu'il avait joué avec plein de monde parce qu'il était un musicien de studio. Il a collaboré avec des artistes comme John Lennon.
Mm-hmm.
Il a participé à l'album Rock and Roll en 1975 de John Lennon. Il a participé au premier album solo de Ringo Starr, celui sur lequel il y a Your 16, Photograph et tout ça, en 1973.
Il s'est frotté au Fab Four.
Au moins deux des Fab Four. Puis il a travaillé aussi avec Rod Stewart de Jeff Beck Group. On s'entend que Jeff Beck, on se dit pourquoi il aurait besoin de Steve Cropper tout un
temps.
Quand même, il a fait des enregistrements avec Jeff Beck. Roy Orbison, José Feliciano, et même des Français, ça m'a surpris. Eddie Mitchell, Véronique Sanson et Axel Red. Il a joué avec ces personnes.
Axel Red, ça m'étonne.
Ouais,
Véronique
aussi.
Sanson moins. Là.
Peut-être que, question de studio aussi, il avait besoin d'un guitariste disponible. C'était peut-être dans son studio à lui. Il dit ah, « c'est moi qui joue. »
Ça se fait bien.
Fini, là. Je sais pas.
Puis les artistes ne s'obstinaient pas parce que c'est un grand talent.
Bien, j'ai lu plusieurs commentaires justement sur lui. Moi, j'ai toujours trouvé que c'était un guitariste impeccable,
mm-hmm.
mais impeccable pour moi, c'est pas nécessairement ça que j'aime.
Ah oui, c'était trop propre. Trop propre,
en retenue. D'ailleurs, son son dans certaines chansons, je le trouvais tellement mince que non, mais ça aurait pris quelque
mais
chose.
Mais dans les extraits que vous nous avez fait entendre, il y a quand même de la bonne guitare.
Non, je parle pas de tous les extraits.
Okay. Est-ce qu'il a remporté des prix? Est-ce qu'il a été reconnu?
Il avait remporté des prix par la communauté
de musiciens.
Oui, bien, il a remporté surtout des prix pour certaines compositions, là, comme j'avais mentionné au début. Pour Sitting on a Dock of the Moon. Je pense qu'il y a eu une mention spéciale à un moment donné, genre un doctorat honorifique.
On va écouter Green Onions.
Oui, ça, c'est la pièce clé de Booker T and the MGs.